reprendre rapidement les objectifs du séminaire et le cadre finalement de nos rencontres. Hein, c'est donc au sein de la plateforme IMAN, c'est constitué un groupe correspondance, tout ça pour finalement interroger notre usage d'un outil commun et de pouvoir stimuler des échanges de pratiques pour essayer de faire un point sur la question des études épistolaires, mais aussi des méthodes éditoriales en environnement numérique. Bien, donc, c'est la troisième séance. Nous avons eu une première séance introductive autour de la question même des études épistolaires. Une deuxième séance pour interroger la question de la coordination édition papier, édition numérique. Et aujourd'hui, donc, nous avons, avec l'intervention de Irène Passon, Alexandre Guibaud et Isabelle Limonon, nous allons interroger la question des éditions finalement coordonnées, des correspondances et des œuvres d'un auteur. Voilà. Avec un premier exemple autour des œuvres d'Alembert et de la correspondance d'Alembert par Irène Passeron et Alexandre Guibaud et Isabelle qui nous présentera le projet Châtenay et les manuscrits de Victorine de Châtenay de la diversité des formes d'écriture. Voilà. Donc, pour présenter rapidement Irène Passeron et Alexandre Guibaud. Irène Passeron, qui est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de mathématiques de Jussieu, où elle travaille avec Alexandre Guibaud, maître de conférence aussi à l'Institut des mathématiques de Jussieu, l'Institut mathématique de Jussieu. Et je les laisse nous présenter leur longue démarche autour des éditions en environnement numérique et de la valorisation des archives d'un auteur en environnement numérique. Voilà, et grand auteur, puisqu'il s'agit d'Alembert.
L'édition d'Alembert, c'est à la fois une édition papier et une édition numérique pour certaines parties. Mais pour certaines parties étant vraies, à la fois de l'édition papier et de l'édition numérique. Dès que j'aurai réussi à partager, je vais le faire avec une autre connexion, donc il y aura peut-être une interruption. Vous verrez le lien vers les deux sites. L'avantage, c'est qu'on est en visio, donc vous pouvez faire autre chose en même temps. Par exemple, vous connecter sur les deux sites. Le premier, c'est dalembert.academie-science.fr. Et le second, c'est celui de l'encre. Vous avez donc les deux liens, le deuxième étant celui de l'encre. Donc, Marie m'avait dit que c'était bien de vous parler un petit peu du contexte dans lequel on travaillait. Alors, on travaille depuis très longtemps, on est vraiment des vieux schnocks. Ça s'est renouvelé, certes, mais voilà. Donc, on travaille depuis 1991, on va dire, et on se réunit très souvent. C'est une très bonne équipe, très sympa. Je vous ai mis quelques photos prises un peu au hasard dans mon stock. Le groupe d'Alembert, donc en fait, on va dire qu'il y a deux entités maintenant. Il y a le groupe d'Alembert, où il y a en gros une quarantaine de chercheurs avec 10 très, très actifs et 30 mobilisés en fonction des volumes en cours. Donc, le groupe d'Alembert, il a surtout en charge le fait d'éditer les œuvres complètes de d'Alembert, ce qui, d'après le programme qu'on s'est donné il y a maintenant 30 ans, devrait se faire, aurait dû se faire en 70 volumes à peu près, jusqu'à ce qu'on décide que ce n'était pas possible pour l'encyclopédie de format papier. Et en dehors de l'encyclopédie, ça ferait une cinquantaine de volumes. On en a publié 7. C'est pour ça que Marie disait que c'est vrai que ça vient de loin. Et puis, depuis plus récemment, ce projet encyclopédie sous une version numérique existe depuis 2013 au moins. Il était un peu en formation avant. Et donc, il continue jusqu'à aujourd'hui de façon très, très active. Et alors, lui, il est encore plus ambitieux. Il y a 140 chercheurs à peu près. Donc, je commence par les œuvres complètes de D'Alembert. Donc, ça, c'est le site dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il faut d'ailleurs qu'on mette un petit peu à jour, mais sur lequel vous avez la descriptif, donc tu peux passer à la diapo suivante, des cinq séries des œuvres complètes de D'Alembert. Marie, tu m'avais demandé aussi donc, de décrire un petit peu sur quel type de corpus on travaillait pour D'Alembert. L'idée est de publier tout ce qu'il a écrit. En gros, il y a des traités et mémoires mathématiques qui se divisent en deux parties, qui constituent la série 1 et la série 3, avec, on va dire, une douzaine de volumes chacun. La série 2, dont je viens de vous dire très rapidement que Alexandre en parlera plus en détail, on a décidé de la faire au format entièrement numérique et pas seulement au format entièrement numérique, de l'ancrer, si je peux dire, dans l'édition de toute l'encyclopédie et pas seulement la contribution de D'Alembert. Et la série 4, qui sont les écrits philosophiques, historiques et littéraires, et la série 5, qui vous intéresse peut-être plus tous aujourd'hui, puisque c'est la partie correspondance. Alors, j'avais cru comprendre, et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'on n'hésitez pas à nous interrompre, hein, qu'on interviendra, c'est sur les liens qu'il y a entre les différentes parties de l'œuvre de D'Alembert. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc, vous venez de voir que dans la série 3, il y a déjà deux volumes parus et il y en a un sur lequel on travaille actuellement. Donc là, vous avez une image de ce à quoi ressemblent les pages de l'édition papier. Ça, c'est des pages extraites, encore inédites, mais qui ne le seront plus dans quelques mois, du dernier volume en cours qui est tout le travail que D'Alembert, qui est à la fois... savant, encyclopédiste, littéraire et surtout académicien non seulement de la française mais aussi académicien des sciences et en tant que tel pendant 40 ans, de 1741 à 1783, il a très activement participé à la vie de l'institution Académie royale des sciences. Et donc notre objectif c'était de publier ce qu'il avait fait dans le cadre de cette académie, en particulier à un grand nombre de rapports d'expertise. Donc là, vous avez sous les yeux un extrait de la page de titre, avec le titre de ce volume, D'Alembert, académicien des sciences, et puis un extrait d'un rapport. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est un rapport non nul, vous allez le voir, et même un rapport très intense, avec la correspondance. D'abord, ça a un peu les mêmes critères, c'est-à-dire que dans cette institution très réglée qu'est l'Académie royale des sciences au XVIIIe siècle, les rapports d'expertise sont lus à une séance déterminée et donc on a pour ces rapports d'expertise toujours une date exacte. C'est celle de la lecture en séance pour laquelle il y a des procès-verbaux. Et donc ça se présente un peu comme une correspondance, c'est-à-dire un item déterminé par sa date et puis son titre. Donc là vous avez la date 26/03/1774 et son titre rapport sur un mémoire de Lagrange relatif à la construction des tables des planètes. Et de la même façon que dans la correspondance, pour les gens qui travaillent sur IMAN, les discussions sur comment on titre les items, là c'est le titre long, mais il y a bien sûr des titres courts qui est rapport Lagrange. Et la diapo suivante. Merci Jean-Sébastien. Et donc, vous voyez là, vous aviez le début du rapport tout à l'heure, ça c'est la fin du rapport, hein, il y a 4 pages entre les deux, avec la signature d'Alembert et le marquis de Condorcet. Dans une autre typo, vous avez la description de la source, la description des commissaires qui ont participé au rapport et la description de l'objet examiné. Vous avez les notes de texte, c'est-à-dire non pas les notes explicatives, mais ce qu'on a coutume d'appeler parfois la paracritique, c'est-à-dire les corrections, les variantes, etc. Donc là, présenté sous une forme très classique pour une édition papier, mais dont il vaut la peine de se demander comment sur d'autres supports numériques on va les transcrire. Et on va essayer avec Alexandre de donner plusieurs exemples de traduction de ces éditions papier au numérique. En particulier, je vous l'ai dit, ces rapports ont un lien très intense avec la correspondance. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, où vous allez voir, donc en annexe de… pardon, excusez-moi, avant de voir l'annexe de ce rapport, là, vous avez juste sur la diapo suivante la représentation de ce dont c'est la transcription, c'est-à-dire le manuscrit original. Vous reconnaissez les signatures que vous avez en haut de la page de gauche, hein, d'Alembert, le marquis de Condorcet. Donc, exactement de la même façon qu'on a envie de le faire pour de la correspondance sur les rapports, on a bien envie aussi d'avoir la page manuscrite, et donc là, c'est notre cas. Et en plus, c'est un cas très agréable parce que l'Académie des sciences auxquelles appartiennent ces archives laisse tout le monde reproduire comme il veut et quand il veut, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal pour nous tous. Donc, diapo suivante, vous allez voir en annexe de ce rapport, donc là je parle de la publication papier, on a mis un grand nombre d'extraits de lettres qui sont directement liés au rapport que vous venez de lire et qui l'informent de façon très dense. Sur, vous apprenez des tas de choses, vous apprenez que l'auteur du mémoire soumis, Lagrange, est tenu au courant par ses rapporteurs de l'avancée et du fait qu'ils seront absolument ravis d'imprimer son rapport. Donc, c'est vraiment une information qui est difficile de passer sous silence, et il est clair que si on peut la mettre en annexe dans une édition papier, dans une édition numérique, on aimerait se poser la question de comment on peut lier ces textes aux extraits de correspondance une fois qu'ils ont été identifiés. Voilà. Donc, je vais revenir maintenant plus directement à la correspondance, donc diapo suivante. Si on revient sur le site de D'Alembert, présentation dans la série 5, qui est la série de correspondance des volumes qui sont publiés. Actuellement, il y a 2 volumes publiés au format papier, un inventaire de correspondance et le premier volume des lettres avec une très grosse introduction et très densément annotée qui va de 1741 à 1752. Donc, D'Alembert étant mort en 83, vous voyez qu'on a encore pas mal de boulot. Mais ça a permis de poser toutes les bases et la structure, et qu'on fait allusion directement à l'édition en ligne qu'on a faite avec Alexandre. Donc, diapo suivante, voilà, sur la série 2, vous voyez qu'elle est annoncée à droite. Et puis, donc, diapo suivante, quand on clique, on peut cliquer directement à partir du site ou bien le trouver sur Internet à cette adresse. Vous avez le site de la correspondance qu'on a appelé D'Alembert en toutes lettres. Donc, vous voyez que lié à cette édition papier, il y a en fait 2 versions numériques de la correspondance de D'Alembert. La première, c'est celle-ci qu'on a créée avec Alexandre 2013 peut-être même, et qu'on a enrichi pendant plusieurs années, qui est actuellement en stand-by, hein, et donc qui est publique et qui présente déjà un certain nombre de lettres transcrites, présentées, etc. Et puis, il y a ce qu'on a fait sur Imane, qui est lui pas encore public, et qui est dans un état dont éventuellement j'aimerais discuter avec vous, qui dépend un petit peu des finalités, et pour ça je vais vous parler de nos objectifs. Alors, si on rentre diapo suivante, donc si on rentre sur ce site et qu'on commence à y rechercher, on avait des objectifs, on a toujours d'ailleurs des objectifs très ambitieux qui ont été réalisés par ce site, qui étaient de pouvoir à la fois naviguer dedans par des recherches, éventuellement des recherches à facettes croisées, c'est ce qui est présenté dans la partie droite excusez-moi, de la fenêtre. Et puis, on avait aussi envie de mettre en valeur l'historique de la façon dont les lettres sont parvenues jusqu'à nous, et en particulier des fonds où elles se trouvent aujourd'hui, qui a un avantage, cette façon de faire, qui est qu'on demande fond par fond les autorisations. Donc, ça permet de mettre disponibles les manuscrits de tout un fond en même temps. Et donc, ça, c'est ce qu'il y a sur la partie gauche de la fenêtre. Et puis, au centre, il y a les résultats de l'interrogation. Ce que vous voyez là, c'est l'interrogation de qu'est-ce qui est actuellement comme lettre de Dombert aux archives de l'Académie des sciences. Je vous ai présenté l'ensemble de l'édition des œuvres complètes de D'Alembert. Je vous ai parlé plus précisément de la correspondance au format papier et de l'édition des rapports au format papier. Et puis, je vous ai montré ce qu'on avait fait avec Alexandre à partir de 2013 sur le site D'Alembert en toutes lettres. Qui avait un inconvénient dont je vous parlerai après. Mais dans ce cadre-là de l'éditorialisation, comme dirait Marie, de toutes les œuvres complètes de D'Alembert, il y a une partie qu'on a développée depuis 2013 qui est la série 2 de tous les articles de D'Alembert dans l'encyclopédie. Et donc, pendant que je cherche la suite du fil de mon discours pour l'envoyer à Jean-Sébastien, je laisse la parole à Alexandre pour qu'il vous présente cette partie.
Donc voilà, bon, je vais vous parler du second projet voilà, sur lequel on travaille beaucoup, qui est ANCRE, donc pour édition numérique collaborative et critique de l'encyclopédie. C'est un projet voilà, qui rassemble pas mal de monde puisque ça dépasse le cadre de D'Alembert. En fait, c'est à la fois né dans le cadre de D'Alembert et ça l'a dépassé par nature puisque l'encyclopédie est beaucoup plus grand, dépasse très largement la contribution de D'Alembert. Donc, l'origine, c'était de trouver une solution hein, pour éditer la contribution de D'Alembert à l'encyclopédie. Et puis, eh bien, chemin faisant, avec eh bien, d'autres collègues hein, travaillant sur d'autres contributeurs de l'encyclopédie, notamment Diderot, Rousseau et bien d'autres, eh bien, on s'est dit qu'il serait intéressant de faire une édition critique de toute l'encyclopédie. Voilà, donc un projet un peu fou, mais intéressant pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, celle de l'éditorialisation, puisque partant d'un projet d'édition papier pour l'une des séries des œuvres complètes, on s'est retrouvé avec l'idée de faire une édition numérique pour une raison simple, hein, de toute façon, puisque c'est une contrainte qui tient à ce qu'est l'encyclopédie, c'est que toutes les contributions de l'encyclopédie sont entremêlées, inextricablement entremêlées les unes aux autres, et donc difficile dans ces conditions de réaliser une édition papier des articles, ne serait-ce que des articles de D'Alembert dans l'encyclopédie, parce que l'encyclopédie est gorgée de renvois entre les parties, de renvois entre les œuvres de D'Alembert, d'articles qui sont co-signés par les uns et par les autres, de renvois aux planches, qui sont également des contributions de D'Alembert, etc. Et que tout ça, eh bien, on l'a attrapé avec une autre approche et surtout un autre format qui est le format numérique. Donc, du coup, je vais vous dire quelques mots de cette encre. Donc, d'abord, c'est la première édition critique hein, de l'encyclopédie. Elle est au format numérique pour les raisons que je viens d'expliciter. Et l'idée, c'est de mettre à disposition eh bien, l'ensemble des études passées et en cours grâce à un appareil critique hein, qui est extrêmement diversifié et qui est adapté à l'œuvre dans le sens où il est articulé à plusieurs échelles de l'œuvre. J'en donnerai un petit aperçu tout à l'heure. C'est une édition qui est collaborative et on va voir si ça joue un rôle très important. Comme le sont les œuvres complètes de D'Alembert, hein, c'est collaboratif dans le sens où chaque volume, que ce soit ceux de correspondance ou ceux des volumes de D'Alembert académicien dont a parlé Irène, nécessite de nombreux collaborateurs. L'encyclopédie nécessite également le renfort, les compétences de nombreux chercheurs. Alors plus parce que c'est extrêmement vaste et ça dépasse très largement les champs de savoir œuvre D'Alembert, mais c'est collaboratif tout de même. Et donc c'est une édition numérique qu'on inscrit sur le temps long. Et donc, on se donne, je ne sais pas, des dizaines d'années hein, pour avancer, qui peut être enrichi au fur et à mesure, y compris des choses qui ont déjà été publiées, et le tout se fait sur une plateforme d'édition numérique. Voilà. Et puis, c'est une œuvre qui est fondée sur la première numérisation d'un exemplaire original, complet, localisé, expertisé de l'encyclopédie. Voilà, Jean-Sébastien, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Voilà, donc ici, ben, vous pourrez aller la consulter en ligne. Ça, c'est on a deux grandes plateformes, deux grandes interfaces pour cette édition. On a celle qui est publique, librement accessible. Et donc, c'est vous envoyez ici la page d'accueil. Et puis, de fait, vous pouvez y accéder sur Internet. Donc, c'est l'interface de consultation de l'édition. Et puis, eh bien, cette interface de consultation, Jean-Sébastien, s'il te plaît, la diapo suivante, est alimentée par une seconde plateforme qui est une plateforme collaborative, qui permet à l'ensemble des membres de l'équipe, eh bien, de préparer les annotations, d'enrichir, de décrire le contenu de l'encyclopédie progressivement. Pour qu'elle puisse être publiée au terme d'une chaîne de validation qui est à la fois scientifique, puisqu'il y a un processus de lecture scientifique et de validation scientifique des contenus critiques qui sont articulés avec le contenu de l'encyclopédie, et puis une chaîne de validation également éditoriale, puisque eh bien, les données qui sont générées sur la plateforme collaborative eh bien, finissent publiées sur l'interface de consultation que vous voyez à l'écran. Et ça va également avec le dépôt de ces données sur les entrepôts Nacala du projet, ce qui permet également de récupérer tout ce qu'il faut, les permaliens et ce genre de choses. Voilà. Donc, Jean-Sébastien, est-ce que tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît, pour qu'on voit un petit peu le schéma de ce… Ah, j'ai l'impression qu'il nous a quittés. Jean-Sébastien nous a abandonnés. Ah, merci. Merci. Ah, ben là, tu m'as… Ok, tu peux revenir juste un peu. Ouais. Eh ben super, je vais partir là-dessus. Donc voilà. Donc ça, ce sont. Je vais vous donner un exemple. Donc du coup, au final, vous avez une plateforme collaborative qui est réservée aux collègues, qui permet de préparer les données, de les enrichir, de les annoter, de les présenter, eh bien, pour avoir ensuite puis être publié sur une interface de consultation. L'idée, c'est que ces données, eh bien, préparées, elles sont de deux types. Hein. Vous avez les données encyclopédiques, donc les données de l'œuvre originale, les données de l'encyclopédie. Et puis, l'idée, c'est qu'on va les enrichir, d'une part. Donc, c'est ce que vous voyez ici, c'est un exemple. C'est un article au hasard, c'est évident vu le sujet, de D'Alembert. Donc, ici, un article d'algèbre ou de géométrie. Donc, la première étape, c'est qu'on vérifie évidemment la transcription de l'œuvre et à partir de l'exemplaire original qu'on a numérisé pour l'édition, exemplaire une édition de Paris. Et puis, on va à l'intérieur de cet article, ici, eh bien, repérer les éléments qui ont un statut particulier et donc auxquels on a attaché des fonctions particulières qui ne sont pas des fonctions qu'on a inventées de toutes pièces, mais qui sont, eh bien, qui font partie du projet à la fois philosophique, scientifique, éditorial, des éditeurs de l'encyclopédie originale et qui se manifestent dans l'œuvre originale sous différentes formes. Donc ici, eh bien, vous voyez, grâce à des couleurs, eh bien, différents types d'éléments qu'on spécifie dans le contenu de l'encyclopédie. C'est évidemment ce qu'on appelle la vedette de l'article. L'encyclopédie est un dictionnaire, donc c'est organisé de façon alphabétique. Donc ce sont les mots qui sont définis, les vedettes. Vous avez des indications grammaticales, adj, ici comme adjectif. Vous avez un élément qui est extrêmement intéressant et ce sont les désignants, ce qu'on appelle les désignants et qui sont l'indication des domaines de savoir auxquels se rapporte le contenu de l'article. Donc ici, vous avez un double désignant, algèbre pour algèbre et géom pour géométrie, qu'on a repéré et qui, donc il est évident qu'il va présenter un certain nombre d'avantages pour la critique qu'on peut faire et pour les chercheurs que l'on est. Vous avez des renvois. Différents types de renvois, vous voyez problème, vous voyez arithmétique universelle. Je vous disais que les contenus étaient interconnectés, et bien vous avez ce type de renvois, ils sont extrêmement fréquents. Vous avez des renvois aux planches également. Et puis vous avez des indications comme en orange, Chambers. Ça signifie que c'est un renvoi à la Cyclopédia de Chambers, c'est une mention de la Cyclopédia de Chambers par D'Alembert, qui peut signifier plein de choses, qui peut être un renvoi eh bien, bibliographique d'une certaine façon, mais ici qui indique a priori que une partie du contenu de cet article a été empruntée à Chambers. Donc après, tout complètement emprunté, avec des modifications, etc. Ce sont d'autres thématiques qui sont ouvertes. Mais là, pour le coup, il s'agit surtout de repérer cette mention dans le texte. Et puis, vous avez deux signatures dans cet article. Un E entre parenthèses et un O entre parenthèses. Donc le O termine l'article et le E termine le premier paragraphe, ce sont des marques qui indiquent, eh bien, ce sont des signatures d'encyclopédistes. Donc, le E, c'est le E de La Chapelle, hein, qui est l'un des contributeurs des articles de mathématiques. Et puis, le O, c'est la signature de D'Alembert. Donc, on a ce travail, on réalise ce travail via cette plateforme collaborative d'enrichissement de l'ensemble des éléments éditoriaux caractéristiques dans l'ensemble des articles de l'encyclopédie. C'est évidemment un travail qui est progressif, mais sur lequel on a beaucoup avancé et qui va présenter un intérêt sur lequel je reviendrai dans un tout petit instant. L'autre enjeu, c'est une édition critique, c'est d'articuler ces contenus avec eh bien, une annotation. Hein. Les œuvres complètes sont une édition critique et commentée. Eh bien, l'encyclopédie est également une édition critique et commentée. Et donc, Jean-Sébastien, si je peux te demander de passer la diapo suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. On va avoir quatre principaux niveaux d'annotation. D'abord, des notes ponctuelles au sens classique du terme, si ce n'est que au format numérique, on a une capacité d'expressivité via ces notes qui est beaucoup plus importante que sur le système de classique de notes de bas de page d'une édition papier. On va avoir la possibilité d'annoter les constituants encyclopédiques, donc c'est-à-dire les éléments que je viens de présenter. Donc typiquement, d'attacher une annotation particulière à un certain type d'information, à une vedette ou à une signature ou à une mention bibliographique. Voilà, et donc pour donner lieu à un commentaire orienté. Et puis, on a des dossiers critiques pour chaque article, une présentation générale de l'article, de ses enjeux, de son contexte, évidemment, historique, scientifique, etc. Et enfin, là, on a également des dossiers transversaux qui portent sur un certain nombre d'articles, au moins deux a priori. Ça peut se présenter sous la forme de fiches dédiées à un contributeur d'encyclopédie, parce que ce contributeur va être l'auteur de plusieurs articles, à un domaine de savoir, parce que cela rassemble plusieurs articles, ou tout simplement à une thématique identifiée par un chercheur comme nécessitant, ou en tout cas qui pourrait être l'objet d'un commentaire particulier, transversal. Je vais vous parler maintenant, pour arriver à cette question de l'éditorialisation, eh bien, d'un exemple, une articulation entre eh bien, ce qu'on repère dans le texte de l'encyclopédie et les éléments critiques. Ici, plutôt la question des fiches contributeurs, donc un exemple de dossier transversal. Vous allez vite comprendre là où je veux en venir. L'un des enjeux, l'idée, on vous l'a dit, c'était de réaliser l'édition critique de la série 2, donc de la contribution d'Alembert à l'encyclopédie. Encore faut-il être capable eh bien, de délimiter ce qui est de D'Alembert dans l'encyclopédie. Et donc, eh bien, l'une des façons, la façon dont on l'a attrapé, via une politique d'ailleurs qui dépasse le cas d'Alembert, c'est de gérer les articles signés et ceux qui ne le sont pas. Et donc, la question de l'attribution des articles dans l'encyclopédie. Ici, vous avez un exemple qui est simple, c'est un article signé, un autre article de D'Alembert, anti-logarithme. Il y a une signature, la marque O en italique, qu'on repère comme une signature contributeur et qu'on va articuler au contributeur d'Alembert et sa fiche contributeur, et puis justifier le lien entre les deux. Ici, c'est parce que eh bien, y a une correspondance entre la signature et D'Alembert qui est donnée dans plusieurs tables présentes dans l'encyclopédie qui explicite le fait que eh bien, voilà, O est la marque de D'Alembert et donc tous les articles portant la marque O sont de D'Alembert. Cas facile. Le cas plus difficile, Jean-Sébastien, s'il te plaît, encore, merci beaucoup, les articles non signés. Et de fait, sur 74 000 articles à peu près de l'encyclopédie, on en a 40 000 qui ne portent pas de signature. Donc c'est loin d'être un cas isolé. Ici, donc, on a un article qui est non signé, racine d'une équation en algèbre. Et l'idée, eh bien, c'est que notre système nous permet tout simplement de lier l'article non signé à D'Alembert et donc au contributeur, et à sa fiche, en justifiant eh bien, le lien et donc l'attribution de l'article à l'auteur correspondant. Dans ce cas précis, l'attribution, eh bien, la note va expliciter les raisons pour lesquelles on peut, par le biais de l'étude, de la recherche, en fait, eh bien, réaliser cette attribution. Ici, c'est un article de maths, c'est un article qui est suivi d'un autre article immédiatement sur le même domaine et qui porte la signature de D'Alembert. Il est question, en plus, ce n'est pas un cas totalement fréquent, mais d'un mémoire avec un « je », donc d'une dissertation que j'ai imprimée au tome 2 des mémoires français de l'Académie de Berlin. Donc, c'est un mémoire de D'Alembert. Et là, clairement, l'attribution ne fait plus aucun doute. Et puis, on signale également eh bien, que cet article a déjà été attribué à D'Alembert par d'autres illustres prédécesseurs des spécialistes de l'encyclopédie, notamment Richard Schwab. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, Jean-Sébastien, encore une petite diapo, s'il te plaît, merci. Eh bien, l'idée, c'est que par ce biais-là, tout simplement, on a un processus numérique qui nous permet, eh bien, par le biais du repérage des signatures, par le biais de la possibilité de lier des articles non signés à des contributeurs spécifiques et grâce à la justification critique de ces attributions, eh bien, de construire un nouvel inventaire de la contribution d'Alembert à l'encyclopédie et de la construire eh bien, de façon numérique, de façon critique, mais avec la possibilité d'un export complet et à tout moment de l'état de cet inventaire à partir de ce qu'on a repéré et des informations critiques qui ont été repérées grâce à la plateforme collaborative, le tout étant, comme pour le reste, progressivement mis à disposition publique sur l'interface de consultation. C'est un apport important dans le domaine de la recherche parce que, eh bien, il existe déjà un inventaire, même plusieurs hein, d'ailleurs, mais disons que le seul qui soit absolument intéressant dans le sens où il est étayé de façon précise par des définitions de ce que Schwab, c'en est l'auteur, appelle, définit, entend comme la façon dont il définit la notion d'article, le fait que l'ensemble repose sur des critères qui sont explicités d'attribution, on a déjà un inventaire dans lequel on trouve 1488 articles signés, enfin en tout cas l'équivalent, hein, en vrai, c'est 1513 articles au sens de Schwab, d'accord ? Un article étant pris au sens auctorial du terme, mais sachant qu'un article peut contenir plusieurs signatures de D'Alembert, eh bien, en ce sens-là, on va avoir 1513 articles chez Schwab qui correspondent précisément à 1488 articles signés au sens de l'article défini dans notre édition Encre. Voilà. En tout cas, on se retrouve avec un corpus qui est cohérent en termes de, pour ce qui concerne les articles qui portent des signatures. Et en revanche, eh bien, un corpus d'articles attribuables à D'Alembert qui, lui, a fortement augmenté parce que, de fait, eh bien, les recherches des encyclopédistes, les recherches des spécialistes sur l'encyclopédie, les recherches des chercheurs des œuvres complètes de D'Alembert ont permis ces dernières années, ces dernières décennies, eh bien, d'identifier de nouveaux articles non signés que l'on peut attribuer à D'Alembert. Et in fine, eh bien, cela nous conduit à un inventaire sur une édition numérique des œuvres complètes de D'Alembert, d'un ensemble d'articles, eh bien, qu'on va pouvoir annoter grâce à l'ensemble des fonctionnalités d'édition, d'annotation critique que je vous ai présentées, qui vont donc nous donner une édition critique de l'ensemble de la contribution de D'Alembert, et puis qui n'empêche pas à terme, et ça fait partie de nos projets, eh bien, de pouvoir à un moment, à un instant T, faire un export complet de cet inventaire analytique de l'ensemble de la contribution de D'Alembert à l'encyclopédie pour en offrir un volume au format papier qui pourra donner eh bien, une image de ce qu'a été, de ce que sera a priori, puisque on va plutôt parler en termes d'avenir, eh bien, un état des lieux de l'inventorie du travail d'inventorisation de la contribution de D'Alembert dans cet ouvrage. Voilà, et donc je laisse à nouveau la main à Irène qui doit avoir quelques petites choses à nous redire sur Iman.
Donc en fait, pour repartir et pour terminer sur un aspect plus lié aux structurations qu'on a données à toutes ces différentes bases de données, que ce soit celles dont je vous ai déjà parlé et ce n'est pas tout à fait sans lien à celle dont Alexandre vient de vous parler, je vais revenir sur quelque chose que je pense vous est familier à tous, qui est la base de données Excel, qui est ce qui nous a servi il y a 20 ans pour faire l'inventaire de la correspondance de D'Alembert. Cette base de données Excel, on la tient à jour avec un certain nombre de champs qui maintenant nous sont communs, en tout cas à beaucoup d'entre nous. Et elle a servi à la fois à la base, à l'interface qu'on a fait avec Alexandre, D'Alembert en toutes lettres, et à ce qu'on a exporté sur Iman, que donc vous pouvez consulter sur Iman. Donc sur la diapo suivante, merci Jean-Sébastien, vous voyez la présentation de la partie correspondant à la correspondance de D'Alembert sur Iman, qui s'appelle D'Alembert lettre à lettre, un titre un peu différent de D'Alembert en toutes lettres, qui est le titre du site qu'on a fait avec Alexandre, et qui a d'autres fonctions. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'on va discuter. Donc, quand on rentre sur ce site, diapo suivante, on peut faire une recherche. Alors ça, c'est le propre d'Iman, c'est que l'arborescence, c'est quelque chose où il n'y a pas de point commun. Donc là, on a décidé de faire une arborescence par année. donc diapo suivante, qui on va sur une de ces années, donc qui joue entre 1741 et 1783, exactement comme la période d'académicien de D'Alembert. Par exemple, sur 51, ben, vous voyez, il y a un certain nombre de lettres, ici 26. Et si on va à la diapo suivante, comme je pense que maintenant c'est bien, peut-être tu peux passer en plein écran, ça sera aussi plus agréable, je pense, pour les...
Alors le problème du plein écran, c'est que parfois ça ne défile pas à l'écran, en fait. Je reste au bloc. Okay. C'est pour ça que je suis pas en plein écran.
D'accord, ok. Alors reste comme ça. Donc là, vous voyez la façon dont c'est présenté sur Iman, grâce au boulot de Richard Walter, on a donc intégré tout ce que vous avez vu au départ, c'est-à-dire le contenu de la base Excel, qui est à jour de 2019. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on a intégré toutes les reproductions qui étaient en notre possession, raison pour laquelle il n'est pas public aussi, puisque en fait, toutes ces reproductions n'ont pas forcément un statut toujours publiable. Légalement, ça devrait, mais enfin, on n'est jamais très, très sûr. Donc là, il y a toutes les reproductions de toutes les lettres dont on dispose. Il y en a 2300. C'est donc pas rien. 2308 notices exactement ont été importées sur Iman. Elles sont toutes décrites assez précisément, comme vous le voyez, parce que les champs correspondent à ceux de la base Excel. Diapo suivante, vous allez voir le bas d'une page correspondante. La seule chose qu'on n'avait pas dans notre base Excel, c'était les relations entre les documents, telle lettre répond à telle lettre. Donc ça, c'est ce qui resterait à faire à la main, si je peux dire, mais c'est pas énorme. Et voilà ce qui est sur Iman. Donc il y a bien sûr tout ce qui correspond à la paracritique, c'est-à-dire les corrections, les additions marginales, etc., ni surtout les transcriptions. Et ça, c'est Richard y est pour rien, c'est parce qu'on a des transcriptions qui sont certes pour certains dans la tech, pour d'autres en Word, et enfin pour un dernier petit cinquième ou sixième encore à faire, qui pourrait être faite sur Iman. Mais là, il y a une politique, on va dire, de récupération à mettre en place. Et pour vous parler, pour qu'on discute tous ensemble de ces politiques plus générales dans lesquelles s'inscrivent nos projets Iman, je vais, avec des diapositives d'Alexandre, donc diapo suivante, vous montrer comment sont structurées nos données actuelles. Donc là, vous avez le rendu papier de ce que vous venez de voir sur Iman, c'est-à-dire la lettre de Quesnay à D'Alembert du 15 juin 1751. C'était juste pour vous rappeler que tout ce que vous voyez en bas, les notes explicatives, les notes descriptives et la transcription, pour l'instant, ce n'est pas encore sur Iman. Donc, diapo suivante pour voir un petit peu comment c'est construit. Donc, la base de données Excel, elle a été transformée en base de données MySQL, donc c'est la base de données de l'inventaire. Elle est reliée à une base de données des versions matérielles dans l'interface qu'on a créée avec Alexandre, puisque, et ça c'est un choix, si je ne me trompe pas, qu'on ne peut pas faire sur Iman, l'idée c'était de considérer comme item la lettre, par exemple une lettre de D'Alembert à Voltaire, quelle que soit la quantité de versions matérielles dont on dispose pour cette lettre. Et donc sur l'interface D'Alembert en toutes lettres, une lettre est présentée avec ses différentes versions matérielles en regard. Sur Iman, on a fait un choix beaucoup plus simple, puisqu'il aurait fallu sinon créer des items pour chacune des versions matérielles différentes. On a choisi de ne présenter que celle qui sert de source sur l'édition papier, c'est-à-dire en général celle dont on a le manuscrit qui a transité. Vous le savez tous, les lettres, elles ont la particularité de pouvoir avoir le brouillon de la lettre, une minute de la lettre qui est restée sur place, la lettre qui a réellement transité, enfin voilà, plusieurs versions, même manuscrites d'époque, sans compter toutes les versions imprimées dont on peut bénéficier et qui peuvent avoir un intérêt. Diapo suivante, donc ces deux bases-là, elles sont liées. Elles sont liées pour D'Alembert en toutes lettres, à une base de données dans une transcription maison qui a permis à Alexandre, à moi et aux ingénieurs qui ont travaillé avec nous de donner une version où on pouvait voir les corrections. Donc on avait un mode de codage maison, diapo suivante. Cette base de données des transcriptions, elle est liée, bien sûr, à l'ensemble des lettres numérisées. Et ça, c'est vrai aussi pour Iman, pour le coup. C'est lié à une base de données des manuscrits qu'on a transmis à Richard. Diapo suivante. C'est ce qui permet, cette base de données des transcriptions, d'être enrichie via les codages qu'on a fait à partir des transcriptions qu'on avait au départ en Word ou en LaTeX. Diapo suivante. Ceci est lié à ce que je vous ai montré tout à l'heure, une base de données des fonds d'archives qui permet de regrouper les interrogations éventuellement par fonds d'archives et de les documenter, d'expliquer pourquoi elles sont arrivées là, etc. Diapo suivante. Et cet ensemble de bases de données qui sont liées entre elles est sur une interface de consultation, de navigation et de recherche que vous avez vu hein, et qui est opératoire, sauf qu'elle ne porte pas sur les 2300 lettres, mais sur... j'ai oublié la quantité, Alex, je crois, 300 ou 400, voilà, qui sont actuellement disponibles à la fois dans leur transcription et dans leur version matérielle. Diapo suivante. Et ça, c'est ce qu'on aimerait faire. Alors, probablement avec l'aide d'Iman. Alors, vous voyez qu'il y a la même structure commune, hein, une base de données liée à une base de données de version matérielle, liée à un ensemble de transcriptions. Mais cette fois-ci, on aimerait que les transcriptions ne soient pas dans notre codage maison, on va dire, mais soient évidemment au codage XML-TUI. Et ça serait structuré de la même façon, et ça permettrait que ce schéma TUI intègre le repérage des corrections et le repérage d'éléments caractéristiques. Donc là, il y a un travail à mettre en place. Et par rapport à ça, diapo suivante, on aimerait que ça puisse s'implémenter sur une interface de consultation grâce à, pour le passage entre la transcription et le schéma TEI, à la plateforme de saisie, à une plateforme de saisie que permettrait par exemple de faire Iman, puisque vous l'avez vu, on a rentré toute la description des lettres et toutes les images, donc celles qui sont manquantes, par exemple, pour saisie sur Iman. Diapo suivante. Et idéalement, on aimerait pouvoir mettre en place une chaîne éditoriale qui, à partir de cette transcription au format XML-TUI enrichi, permette d'éditer directement au format papier ce qu'on souhaite éditer, et en particulier au format, vous l'avez vu tout à l'heure, pour les volumes qui ont déjà été publiés. Voilà, donc ça c'est le descriptif. Vous voyez que... on a beau essayer de parler vite, c'est quand même assez foisonnant. Il y a des projets totalement aboutis et publics, comme D'Alembert en toutes lettres ou Encre pour la version, pour la version publique sur Internet actuellement, efficace, qui rassemble une communauté de gens assez passionnés. Des volumes papier qui continuent à paraître et on aimerait, avec l'aide d'Iman, arriver à développer une chaîne éditoriale. Donc, vous voyez que par rapport aux discussions qu'on essayait de mettre en place, il n'y a pas d'articulation systématique entre les différents aspects. Par exemple, pour l'instant, il n'y a pas d'articulation entre l'interface numérique de l'encre, de l'encyclopédie et l'édition des correspondances. Il n'y en a pas non plus avec les rapports, donc ça aussi, ça serait quelque chose qui serait intéressant à faire, parce que comme je vous l'ai montré tout au début, bah, il y a des liens très denses. Et actuellement, donc, ça passe, si on essaie de prendre le modèle de l'encre qui marche bien, eh bien, ça passe par des renvois directs. Hein, quand je vous dis qu'il n'y a pas de lien systématique, toujours possible de faire un lien Internet entre deux plateformes numériques, hein. Mais c'est ce que j'appelle pour moi un peu artisanal, ce n'est pas systématique. Et puis finalement, ce qui peut être le plus efficace pour l'instant, c'est les échanges entre éditeurs. C'est parce qu'on est une équipe qui travaille beaucoup ensemble que ben, la plupart des informations, je serai honnête, elles passent par nous. C'est à la fois efficace et c'est fragile. On aimerait mieux qu'il y ait d'autres systèmes de transmission d'informations. On voulait aussi vous dire que bah, votre demande, la demande d'Imane de réfléchir sur ce type de problématique, elle arrive au moment où un des collaborateurs à la fois d'Alembert et de l'encre, hein, qui s'appelle Christophe Schmitt, a eu un projet qu'on trouvait très lié à ce que vous aviez, sur quoi vous aviez envie de réfléchir, qui est un dossier transversal dans l'encre. Alexandre a parlé tout à l'heure des dossiers transversaux, ces dossiers qui sont liés à plus d'items et qu'on peut faire apparaître en sélectionnant un de ces items, un article ou un autre, ben, il y a marqué, il y a, si vous voulez plus de renseignements sur, mettons que vous ayez cliqué sur Saturne, eh bien, il y a un dossier transversal sur toutes les planètes dans l'encyclopédie. L'idée de Christophe, c'est de faire un dossier transversal sur les formes de circulation entre l'œuvre personnelle de D'Alembert, son traité de dynamique, par exemple, et un article de l'encyclopédie. Ben, par exemple, l'article dynamique où D'Alembert a repris une partie de la préface de du traité de dynamique pour en faire une partie de son article. Et bien sûr, ce type de circulation, de réemploi, d'influence, c'est quelque chose qui se retrouve entre les différentes parties de l'œuvre. Je pense qu'on a tout ça en commun et que pour l'instant, on n'a pas d'autres solutions. Voilà. Direct, ça serait vraiment intéressant d'y réfléchir ensemble que de faire un lien, un simple lien hypertexte. Donc, si je résume, eh ben, je vois deux axes de réflexion. La première, c'est comment on fait coexister une éditorialisation numérique des corpus avec toute la densité narrative qu'on a dans une édition papier. Voilà, Alexandre a parlé de solutions, j'en ai parlé aussi, mais je ne dirais pas que c'est encore complètement satisfaisant. Et puis enfin, une solution beaucoup plus centrée autour d'Imane, beaucoup plus centrée autour d'Imane. Est-ce que Imane, ça doit être une éditorialisation en soi, voilà, une forme de présentation au public, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le considérer comme un élément d'une chaîne éditoriale ou un outil de travail à l'intérieur d'une équipe? Voilà ce que je soumets à vos réflexions.
Merci beaucoup Irène et Alexandre pour cette présentation si riche. Voilà, et vraiment, vous avez pointé, j'ai été sensible au point justement que tu reprends, c'est-à-dire cette question de distribution de la paracritique et que cette différence entre édition papier et édition numérique. J'ai été tout à fait sensible à cette, pour pouvoir penser justement cette distribution, de faire une typologie des différents types d'annotations qu'on puisse mettre. Après, il y a cette question, tu as raison, c'est-à-dire comment systématiser aussi cette mise en réseau des archives qui se documentent les uns les autres, quoi. Et c'est vrai que cette question de connexion de différents dispositifs techniques, parce que c'est quand même aussi ça le... l'intérêt vraiment que je trouve à votre démarche, voilà, c'est comment évoluer sur différents dispositifs techniques et comment pouvoir interconnecter ces différentes éditions. Et bien sûr, alors là, ça reprend un peu la thématique de la semaine dernière, mais c'était sur comment une édition numérique, et on a trouvé ça, l'idée aussi a été évoqué la séance dernière, c'est comment une édition numérique peut être un espace donc, de collaboration et de préparation d'une édition papier, avec toute la question toute cette question de cette mise en place d'une usine éditoriale autour d'une œuvre aussi importante et difficile à cerner que celle de D'Alembert. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Moi, j'aurais bien une question à vous poser. Non, il n'y a pas de questions sur le chat. Jean-Sébastien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou...
Non, non, je réponds des questions peut-être plus purement techniques. Donc, vas-y. Et puis, j'irai, puisqu'on est tous en ligne, en audio-vidéo, si les personnes veulent prendre la parole, qu'elles n'hésitent pas. Hein, mais je vais se poser tes premières questions.
Non, ma question était surtout de développer un peu les conditions de collaboration finalement et comment un environnement numérique, un dispositif technique peut être un bon outil. Donc, comment vous fonctionnez pour ce travail collaboratif autour de l'œuvre de D'Alembert, collaboratif et critique.
Je ne sais pas, Alexandre, tu veux peut-être répondre. Je dirais, pour commencer, qu'on a plusieurs modes de fonctionnement, comme je l'ai dit. Il y a deux groupes qui ont plein d'éléments en commun, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient, parce qu'ils arrivent difficilement à être au four et au moulin. Donc, c'est le groupe D'Alembert et puis le groupe Ancre. On va dire qu'actuellement, le groupe Ancre, c'est celui qui est le plus nombreux. Je vous ai dit, 140 personnes, et le mieux structuré. Donc là, c'est surtout Alexandre qui connaît ce point-là. Donc, si tu veux dire deux mots.
Oui, bah, en fait, de façon succincte, parce que je suis conscient qu'on n'est pas très en avance et que c'est une vaste question, on va dire que la plateforme collaborative qu'on a mise en place, elle permet à 540 personnes de travailler ensemble à distance. C'est une plateforme qui permet un travail collaboratif géographiquement, de réunir des collègues géographiquement dispersés avec une politique éditoriale, en fait, voilà, qui est discutée de façon en amont, hein, et également de façon collaborative. Donc on a une politique éditoriale, on a une politique scientifique, tout ça est discuté en amont, et ensuite on l'a implémenté, et les gens la partagent et travaillent dessus, en fait, dans un espace numérique. Voilà. Et après, derrière, évidemment, Irène a raison de le rappeler, le meilleur moyen d'échanger, ça reste quand même, alors bon, pas l'échange physique, c'est pas le bon moment pour dire ça, mais on va dire l'échange de visu, enfin en tout cas bilatéral, en vrai l'échange humain. Donc on a un séminaire qui accompagne ce processus, et puis des rencontres quand même régulières, où on essaye de réunir les gens dans l'équipe. Donc tout ça, l'un ajouté à l'autre, nous permet, eh bien, de réaliser ce process, voilà, qui fonctionne de façon collaborative finalement d'un bout à l'autre de la chaîne, de la conception de l'édition et de ses objectifs scientifiques jusqu'à eh bien, la production des contenus critiques et leur publication, quoi.
Ça, merci, et ça met du coup en évidence la nécessité de bien établir la méthodologie éditoriale en avant, les principes et de réfléchir à tous ces questionnements. Bon, j'arrête parce qu'on n'est pas très en avance, mais juste pour encore souligner et de rebondir sur ce que tu dis aussi, Alexandre, c'est sur ces liens vraiment entre édition et recherche. Et finalement, même pour attribuer, parce que parfois on a l'impression que l'édition numérique, il y a très peu de démarches critiques et scientifiques et qu'on balance, on pourrait dire, des manuscrits numérisés avec des sources, mais c'est bien rien que dans la question de l'attribution d'un article à un auteur, on a bien vu aussi du coup toute la démarche scientifique et critique qui est nécessaire à la démarche éditoriale. Merci.
Alors, simplement pour effectivement poursuivre, j'étais très intéressé par votre démarche justement éditoriale et cette chaîne éditoriale que vous souhaitez mettre en place pour aller vers l'édition papier. Souvent dans Iman, c'est un peu l'inverse, hein, c'est qu'on part de nos éditions papier pour les numériser et les mettre sur Iman. Là, vous faites autre chose. Et je dirais que c'est très ambitieux, en définitive. Hein, et je n'avais pas vu Iman, donc Richard qui est déconnecté va peut-être réagir, mais je n'avais pas vu cette possibilité que pourrait avoir Iman d'aller vers une édition papier préparée en amont sur Iman. Alors, simplement, il y a un élément qui m'a peut-être échappé parce que je manipulais les diaporamas en même temps, c'est que finalement, pourquoi avoir fait le choix de passer de votre première édition numérique dont la plateforme est déjà très, très agréable à parcourir, et pourquoi aller sur Iman, hein? Quelle a été la problématique de ce passage, hein, en espérant que ce n'est pas une question polémique?
Non, elle n'est pas polémique, mais Alexandre d'ailleurs va y répondre aussi. La réponse, elle tient en six lettres, XML TEI.
D'accord. C'est qu'en fait, si j'ai bien compris, votre encodage de l'édition de Lambert, c'est votre encodage maison, en fait, qui permet ces codes couleurs, en fait, pour identifier les différents éléments. Et ce n'est pas de la TEI, en fait. Et il fallait, en fait, transformer ça en TEI. Donc, on a effectivement un langage partageable par tous.
Alors, oui et non. Enfin, attention, en fait, il y a. L'encre est intégralement en XML TUI, hein, donc, il a été conçu comme ça dès le départ, en fait, en XML. En revanche, tout l'aspect correspondance, lui, ça, en fait, au début, les schémas qu'on a prévus de description pour les lettres qu'on applique pour la correspondance, ça vient d'un autre corpus de D'Alembert également, hein, qui sont les éloges de D'Alembert. On a construit les choses, mais il y a longtemps, hein, ça remonte au début des années 2000. Et ça a été fait à une époque d'ailleurs où l'XML TUI ne s'était pas imposé comme un classique, un standard, on va dire, garantissant à court ou moyen terme toutes les questions d'interopérabilité. Donc, on a fait ça vraiment maison et on a développé des interfaces qui allaient avec. Et puis, on a développé l'interface en avançant. Et puis, à partir d'un moment, l'idée, c'est de maintenir tous ces trucs-là, sachant que ce n'est plus les standards. Que ce n'était pas pensé d'ailleurs pour vraiment consulter une chaîne éditoriale pour la correspondance. Donc, plutôt que de tout mettre à la poubelle, on va dire, et en essayant de revenir à des pratiques qui soient beaucoup plus raisonnables d'un point de vue académique, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire actuellement, eh bien, l'idée d'Irène notamment, avec moi, et Richard, c'est de voir dans quelle façon on pourra le faire avec Imane, en gardant ce qui peut être gardé de ce qu'on a déjà fait, et puis en collant un maximum aux objectifs scientifiques et toute la politique éditoriale qu'a développée Irène pour la correspondance d'Alembert.
D'accord, je comprends très bien. Merci.
Merci à toi encore, Jean-Sébastien, pour les diapos. On est vraiment
désolé au passage. Hein, un clic de l'index, longtemps, oui. C'est pas trop fatigant. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer donc à la communication suivante, donc celle de Isabelle Lémonon, que nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi, donc qui est professeure agrégée de physique et qui est docteur en histoire des sciences. Hein. Isabelle a soutenu sa thèse à l'EHESS et au centre Coiré en 2019 sur la savante des Lumières françaises. Et donc Isabelle Lémonon, responsable du projet d'édition numérique des manuscrits de Victorine de Châtenay, que personnellement je ne connais pas. J'ai même appris qu'on disait Châtenay et pas Chastenay, donc je n'ai pas fait cette erreur en vous présentant. Voilà, femme savante, hein, si j'ai bien compris, de la fin du XVIIIe siècle et d'une bonne partie du XIXe siècle, qui a fait des traductions et des ouvrages littéraires et qui est une production savante en botanique, en histoire ou en mathématiques. Hein, et donc, vous allez nous présenter, bien sûr, ce corpus qui, si j'ai bien compris, est pour grande partie conservé aux archives départementales de la Côte d'Or et qui représente donc un volume important de plus de 4500 pièces. Voilà, je vous laisse la parole. J'ai bien reçu votre diaporama, sauf si vous voulez le partager vous-même.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Je vais faire une tentative et puis voilà. On verra ce que ça va donner. Merci beaucoup pour votre invitation, Jean-Sébastien et Marie. Et puis, merci beaucoup pour cette première partie qui va donner de l'eau à mon moulin. Et donc, je préviens tout de suite, donc ce projet est à son stade embryonnaire. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le fruit des travaux collectifs préliminaires de notre groupe de travail. Et je n'en suis ici qu'une des porte-paroles. Je remercie en particulier Gilles André, Valérie Burgos, Blondel, Jean-Henri Camus, Marc-Philippe et Cécile Robin pour leur contribution à ce diaporama et dont certains sont dans la salle aujourd'hui. Alors, cette présentation sera l'occasion pour moi, au-delà de vous faire découvrir ce projet, de mettre à l'épreuve les directions initiales prises par notre équipe et surtout de bénéficier de l'expérience de la communauté EMAN. En effet, je vais ici davantage soulever des questions et pointer des difficultés qu'exposait une démarche bien établie. Le projet d'édition numérique des manuscrits de Victorine de Châtenay est très jeune puisqu'il a pris forme au printemps 2020. Ces activités ont été largement freinées par la pandémie et aucune réunion en présentiel de l'équipe n'a pour l'instant pu avoir lieu autour des manuscrits. Notre démarche vise à mettre à disposition des chercheurs, des étudiants et du public les manuscrits d'une femme peu connue de la première moitié du XIXe siècle. Il ne s'agit pas de réaliser une édition génétique de texte, ni de proposer un espace d'exposition, mais de produire une édition critique d'un ensemble hétérogène dans leur forme d'archives, dont la cohérence est issue de l'usage qui en est fait par leur autrice. L'élaboration toujours en cours du projet s'appuie donc sur une co-construction des savoirs par une approche scientifique et méthodologique du point de vue de l'édition numérique des manuscrits, à même de permettre la reconstruction temporelle des pratiques d'écriture de Victorine de Châtenay. Notre démarche s'inscrit également dans une volonté de patrimonialisation, devrais-je dire de matrimonialisation, de ces archives et dans une approche didactique, puisque nous souhaiterions utiliser ce projet comme outil d'enseignement pour des étudiants de master, par exemple. Alors, pourquoi avoir choisi IMAN ? L'accès libre et gratuit, la pérennité relative, les outils comme Transcript ou Transcribus pour la transcription, et surtout l'expérience collective de la plateforme IMAN nous ont orientés vers son choix. Je parle bien d'expérience collective, puisque chaque apport technique conçu pour un projet est mis à disposition des autres. Les formations régulières, les rendez-vous de suivi de projet et les discussions entre projets nous assurent un environnement de travail confortable et stimulant. La flexibilité des collections, dont vous avez un aperçu ici sur cette diapositive, sont aussi un atout. Vous avez également, donc ici sur la droite, les présentations, lorsqu'on est administrateur, des mots-clés qui peuvent être utilisés donc, pour une étude par la suite. Au niveau de la plateforme IMAN, et donc là vous avez ici un aperçu de l'interface administrateur, chaque page manuscrite à gauche est accompagnée de sa transcription, donc à droite, et d'un appareil critique organisé de manière à offrir plusieurs fils de lecture et d'interrogation des textes. Donc, comme vous le voyez, nous n'en sommes qu'au début. Vous pouvez ici visualiser les prémices concernant, par exemple, le nom des personnes citées avec cet outil qui va peu à peu évoluer. Des index de personnes, des lieux et des ouvrages cités seront construits en parallèle des transcriptions. Ah, je suis désolée, j'ai sauté une diapo. Voilà. Alors, nos premiers essais révèlent déjà des choix techniques à opérer. Comme vous voyez sur ce texte de botanique comportant plusieurs schémas ici qui sont intégrés au texte et qu'il va falloir intégrer aussi dans la transcription et il faudra effectivement, du point de vue de la technique, réfléchir à la manière dont le texte et l'image vont s'organiser. Aujourd'hui, après une présentation du corpus et de l'équipe, je m'attarderai plus particulièrement sur la diversité des formes et des pratiques d'écriture qu'il renferme, afin de mettre en lumière les enjeux et difficultés que cette diversité pose à l'édition numérique. Alors, d'abord, quelques mots sur les origines familiales de Louise-Marie-Victoire de Châtenay de Lanty, dite Victorine de Châtenay de son petit nom. Fille aînée du comte de Châtenay et de Catherine Louise d'Herbouville, elle appartient à la vieille noblesse d'épée de France, dont le lustre s'est un peu affadi à la fin du XVIIIe siècle. Aux côtés de son frère Henri-Louis, d'un an son cadet, elle reçoit une éducation très soignée dès l'enfance grâce à des précepteurs variés et au salon de ses parents, qui voient la visite de nombreux savants comme Fourcroix, Toin, Charles, des lettrés comme Sylvestre de Sacy, ou des hommes politiques comme Barras. Victorine de Châtenay est bien connue des historiens de l'Empire en tant que mémorialiste, même si elle reste une grande inconnue pour la plupart d'entre nous. Elle a également publié des traductions littéraires de l'anglais et des ouvrages historiques. Ses autres travaux sont restés à l'état de manuscrits et n'ont jusqu'à présent pas attiré l'attention des chercheurs, jusqu'à ma visite dans les archives départementales de la Côte d'Or à Dijon, un matin de printemps 2016, durant ma recherche de thèse. Imaginez ma surprise de découvrir une trentaine de cartons contenant des manuscrits inédits écrits par une femme au début du 19e siècle, notamment dans les disciplines scientifiques. Croyez-moi, c'est une denrée rare. La comtesse laisse pourtant un vaste ensemble archivistique qui offre un accès aux pratiques savantes et aux pratiques d'écriture souvent peu documentées d'une femme au début du 19e siècle. Le corpus disponible aux archives départementales de la Côte d'Or compte 4520 pièces sous forme de folios, de double pages et de cahiers majoritairement non folioté. Alors, ces documents s'organisent selon différentes catégories, comme des mémoires savants, des mémoires personnelles, des fiches ou des notes de lecture, des journaux d'observation ou de germination, des correspondances et des notes de cours. Grâce à la mise en place de ce projet d'édition, de nouvelles étapes de patrimonialisation ont été franchies, puisque, comme je vous l'ai dit auparavant, la plupart de ces documents n'étaient pas folioités, et donc la cotation a commencé avec le travail de Cécile Robin, qui est historienne et chargée d'études documentaires aux archives départementales de la Côte d'Or, et maintenant la numérisation est envisagée. En parcourant le fonds familial Châtenay-Lanty, dont la grande majorité est constituée des archives de la comtesse, on doit donc se déplacer dans un ensemble archivistique, assez hétérogène. Mais la spécificité de ce corpus est qu'il fournit des écrits à dimension scientifique qui dépassent l'écriture de soi, plus souvent rencontrée dans les écrits littéraires. Il témoigne ainsi de l'investissement de Victorine de Châtenay dans toutes les disciplines des savoirs comme la botanique, les mathématiques, le droit, l'histoire, l'astronomie, la linguistique, les sciences physiques, la littérature et bien d'autres. L'ampleur du corpus cristallise probablement cette maxime notée dans une des fiches de la comtesse en latin. Alors, je vous donne simplement la traduction en français parce que mon latin est un peu rouillé. Que les ignorants apprennent, que les doctes aiment à se souvenir. Très vite, face à un tel volume hétérogène, la nécessité d'une équipe aux compétences plurielles s'impose. Alors, historiquement construite à partir de mon réseau, l'équipe compte 10 personnes, principalement bénévoles et avant tout motivées par le projet, chacune ayant des compétences différentes et contribuant à la hauteur de ses disponibilités. Un premier groupe est plutôt spécialiste de la botanique. Donc Marc Philippe, botaniste et passionné d'histoire de la botanique, qui travaille à l'Université de Lyon. Gilles André, physicien retraité qui travaille depuis plusieurs années sur l'histoire de la botanique tout en pratiquant l'édition de manuscrits. Ils constituent à eux deux un binôme opérationnel qui a déjà beaucoup apporté au projet. Florence Tessier, conservatrice de la bibliothèque de botanique du Muséum national d'histoire naturelle et qui travaille notamment sur les auditeurs du cours de botanique de Desfontaines, amis de la famille Châtenay. Un deuxième cercle regroupe des historiens des sciences et des savoirs, Jeanne Pfeiffer, qui est historienne des mathématiques et qui s'intéresse aux journaux savants, Patrice Brett, historien spécialiste des 18e et 19e siècles, qui travaille à l'édition de la correspondance de Lavoisier et sur les traductrices et femmes chimistes, Juliette Lancel, qui est historienne des savoirs et des croyances, qui se penche sur les écrits du fort intérieur. Valérie Burgos-Blondel, documentaliste, éditrice, historienne des institutions, porte un intérêt aux pratiques de recherche, qu'il s'agisse de celles d'une femme du 1er 19e siècle ou de collectifs contemporains comme le nôtre. Et enfin, moi-même, historienne des sciences, des femmes et du genre. Alors, parlons un petit peu des correspondances. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler du dernier groupe. Si j'oublie une partie de l'équipe, ça ne va pas bien se passer quand même. Qui exerce, donc le dernier groupe, sous-groupe, eh bien, c'est la partie de l'équipe qui travaille au plus près des archives, et en particulier Cécile Robin, donc, que j'ai déjà citée, et qui, en plus de la cotation, a pris en charge la partie littéraire des manuscrits. Enfin, Jean-Henri Camus, qui est voisin du château de la comtesse, président de l'association des Amis du Châtillonnais, qui est notre spécialiste d'histoire locale. Comme vous voyez, l'équipe reste à étoffer pour couvrir l'ensemble des domaines à traiter que nous n'avons qu'effleurés jusqu'à présent. À cela s'ajoute l'apport des équipes scientifiques et techniques d'IMAN qui demeurent essentielles aussi bien en phase de lancement que pour interconnecter enjeux scientifiques et d'édition aux enjeux d'utilisation des outils numériques tout au long de l'avancée du projet. Alors, j'en arrive aux correspondances. Alors, ce corpus renferme des formes d'écriture variées, dont les correspondances. Correspondances aussi bien reçues qu'envoyées par Victorine de Châtenay. Elles sont en nombre très limité. 6 ont été répertoriées pour l'instant. Ces lettres ont dans leur grande majorité une forme classique et ne posent pas de difficultés particulières pour l'édition, aussi bien papier que numérique, même si nous n'envisageons pas d'édition papier, en dehors des choix éditoriaux classiques à opérer. Vous pouvez ici voir, par exemple, une lettre destinée au baron Georges Cuvier en 1826. Parmi ces lettres, l'une d'entre elles, incomplète, qui est envoyée par le botaniste Aubert de Petit-Thuars, est illustrée de cotylédons et bourgeons encastrés à même le texte, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc cet ajout nécessitera un traitement adapté sur la plateforme IMAN, auquel il sera nécessaire de réfléchir de manière à optimiser la visualisation. Nous envisageons de compléter cet ensemble épistolaire avec des lettres dispersées et déjà repérées dans de multiples centres de conservation d'archives, comme l'Institut de France, le Muséum d'histoire naturelle ou des archives privées. Même si ces correspondances sont peu nombreuses, elles constituent une des pièces du puzzle laissé par la comtesse que nous tenterons de réassembler. Et je vous montrerai, enfin, j'essaierai de vous expliquer comment tout à l'heure. Alors, cet ensemble archivistique compte également des fiches ou notes de lecture. Ici, une note sur les cours de mathématiques donnés par Laplace et Lagrange à l'école normale en 1794. Comme l'écrit Cécile Robin, et je la cite, ces notes sont très homogènes sur le plan matériel. Elles sont écrites sur des feuillets pliés en deux, chaque note étant composée d'un à quatre feuillets, rarement numérotés. Ces notes, très personnelles, sont visiblement destinées à leur seule rédactrice. Volontairement partiales et elliptiques, elles sont encore rédigées à la hâte. N'ayant jamais été destinées à la publication, elles donnent l'impression d'avoir été rédigées dans le seul but de se forger une opinion par la confrontation à celle d'autres auteurs. Il ne s'agit pas de juger objectivement, mais de s'exprimer à la première personne du singulier, en personne éclairée, capable de tout lire, et qui s'estime légitime à donner son sentiment sur tout écrit. Ce curieux mélange de science et de sentiment fait sans doute la grande originalité de ces notes. On y trouve quelquefois, pour préciser un détail ou pour compléter l'argument, un schéma, un plan rapide ou des graphies spécifiques. Comme vous le voyez ici, concernant l'alphabet turc, un texte sur l'Égypte ou sur des champs de Nouvelle-Guinée. Ce genre de document promet un travail important autour des questions d'édition et d'éditorialisation sur la plateforme IMAN. Donc, des problèmes futurs à résoudre. Une autre forme d'écriture dans le corpus, les mémoires ou essais savants. Ici, une géométrie raisonnée écrite en 1812. Ce manuscrit de 31 pages est un traité de géométrie euclidienne qui expose et démontre par exemple les propriétés des triangles, des polygones et des solides. Il peut à la fois être considéré comme un document de travail, on y trouve de nombreuses ratures, permettant de vérifier ses connaissances en les couchant sur le papier, et comme un court résumé où l'on peut retrouver rapidement une propriété donnée. Toutes les démonstrations sont écrites sous forme de propositions où aucun symbole ou aucun schéma n'est utilisé, à la différence, par exemple, des démonstrations qui sont réalisées dans les manuscrits d'Émilie du Châtelet au XVIIIe siècle. Ce style philosophique, davantage employé dans la première moitié du XVIIIe, est un choix conscient et assumé de son autrice. Parmi ses mémoires savants, l'un d'eux a attiré l'attention de Marc-Philippe et Gilles André. Il s'intitule « Fondements botaniques » et je vous présente rapidement leur découverte, car elle a eu un impact important sur la structuration de notre site IMAN. Alors, ce manuscrit de 74 folios expose les développements historiques sur la reproduction génération des plantes. Il présente plusieurs difficultés au niveau déjà technique de la transcription, puisqu'il est long, il y a de nombreuses ratures, et la transcription en est parfois difficile. Des difficultés éditoriales en particulier parce que l'appareil critique est très volumineux. Nous avons environ plus de 50 auteurs et autant d'ouvrages cités dans ce texte. Et donc, il faudra s'interroger sur la manière de proposer une visualisation claire du manuscrit, de sa transcription et de cet appareil critique sur la plateforme. Bon, à cela s'ajoutent bien sûr des difficultés scientifiques en lien en particulier avec les dénominations botaniques. Et donc, ces travaux de Marc et Gilles ont démontré que ces fondements botaniques n'étaient en réalité d'abord pas de la main de Victorine de Châtenay, mais de la main de deux auteurs différents qu'il va falloir identifier. Et surtout, en tout cas pour ce qui concerne la plateforme IMAN, ce n'est pas un mémoire savant, comme on l'avait classé auparavant, mais une traduction d'un texte plus ancien, probablement de Linné, et jamais traduit en français. Donc, bien évidemment, toutes ces découvertes viennent bousculer la manière dont nous allons traiter ce manuscrit sur notre plateforme IMAN. Très intéressée par la botanique, la comtesse tient également et de manière régulière des journaux de germination et d'observation diverses. Cette forme d'écriture devra être mise en relation avec d'autres éléments archivistiques comme les correspondances, puisque nous savons en particulier que dans au moins une lettre, elle a des échanges avec le Muséum d'histoire naturelle pour récupérer des plantes qu'elle intègre ensuite dans son jardin. Mise en relation également avec les notes de lecture qui alimentent les remarques théoriques de son journal de germination. Et enfin, des listes dont je parlerai plus tard. Une réflexion sur la mise en réseau des textes sur IMAN sera indispensable pour faire apparaître les pratiques d'écriture de Victorine de Châtenay. À cela s'ajoutera la construction de frises chronologiques croisées de ces formes d'écriture, à même de temporaliser ces pratiques. Ici, l'outil numérique devrait nous aider à reconstruire les interactions entre ces documents. Les notes de cours suivies par la comtesse, cours privés comme cours publics, au Collège de France, à l'Observatoire, au Muséum, avec Arago en astronomie, Cuvier en histoire naturelle, Chevreul en chimie, Humboldt en physique, etc., offrent toute une organisation très structurée dont on peut résumer les principaux traits caractéristiques ici. Donc, dans le cas de notes mises au propre, comme c'est le cas sur cette diapositive, on note une écriture sur l'intégralité des pages, comme dans le cas des mémoires, avec peu de ratures, éventuellement quelques schémas. Chaque cours suivi est précédé du numéro du cours, entouré en rouge ici, et de sa date, encadré en bleu. Le premier cours de la série mentionne en général le nom du professeur, encadré en violet ici, donc vous voyez M. Cuvier, et parfois le lieu, plus rarement le sujet. Donc, il nous faudra intégrer toutes ces informations dans la plateforme sous une forme ou une autre. Et donc, il va falloir que nous y réfléchissions. Deuxième cas, les notes de cours qui n'ont pas été mises au propre, comme celle-ci. Donc, la moitié gauche de chaque page, encadrée en vert sur la diapositive, est laissée vierge et la moitié droite est utilisée pour la prise de notes. En cas de rature et d'ajout, donc c'est ce qu'on peut voir encadré en jaune et dans le petit rond orange, la partie gauche laissée vierge est utilisée. Elle peut elle-même faire l'objet de ratures et d'ajouts. On note exceptionnellement la présence de collage lorsque l'espace n'a pas été nécessaire. Il va sans dire que l'édition numérique de cette forme d'écriture nécessitera la mobilisation des compétences et de l'expérience de Richard Walter et de toute son équipe. Je pense qu'il va me demander beaucoup de chouquettes. Ces notes de cours sont exceptionnellement parées d'index créés par Victorine de Châtenay selon différentes entrées. La date, le domaine scientifique, des noms de savants, des lieux. Là encore, ce type d'objet nous devrons porter en tout cas une attention importante sur la manière de l'intégrer à la plateforme et de l'outiller d'un appareil critique. Enfin, dernière forme d'écriture, les listes, notamment en botanique, alors qui sont parfois des directives aux jardiniers pour son jardin du château des Sarrois, où elle a fait implanter des serres froides et des serres tièdes. Parfois, ces listes sont des commandes de plantes à des jardins botaniques, ou encore des listes de noms de plantes sans qu'on ait plus d'indications supplémentaires. Là encore, une mise en relation avec les correspondances et les mémoires s'avère nécessaire pour reconstruire la chronologie et les réseaux de l'organisation intellectuelle et matérielle des savoirs de la comtesse. Comme vous avez pu le constater, les interactions réflexives entre la transcription, l'édition critique et le dispositif technique que constitue IMAN sont permanentes. Ces va-et-vient nous permettent de co-construire notre dispositif technique. De nouvelles questions engendrent de nouvelles fonctionnalités. L'édition critique contraint l'outil qui vient offrir de nouvelles pistes d'analyse pour suivre et analyser l'activité savante de Victorine de Châtenay. Nous sommes donc au début d'une entreprise qui nous réserve encore probablement beaucoup de surprises. Au-delà des nouvelles sources que ce projet offre à toutes et tous, nous espérons qu'il contribuera également à corriger l'injustice épistémique dont un grand nombre de femmes ont été les victimes au travers de l'écriture d'une histoire des grands hommes. C'est pas l'aspect mémoriel qui importe le plus ici, mais les enjeux de légitimation des savoirs, de construction des expertises et des hiérarchies entre les savoirs, les pratiques et les acteurs et actrices qu'ils révèlent. Mais pour finir, je préfère laisser le mot de la fin à Victorine de Châtenay en souhaitant que ce projet amplifie la gloire à laquelle elle aspirait. Elle écrit en effet au cours de la Révolution: j'avais déjà eu à souffrir de l'aristocratie des vieilles douairières et du fardeau dont m'avait accablé la médiocrité qui s'appelait bon sens et détestait le savoir dans la nation et les talents dans une jeune fille. L'idée de n'être rien quand le mérite allait être tout ne me laissait pas fermer les yeux. Je lisais au lieu de dormir. Qu'on ne s'y trompe pas, c'était la gloire qui me passionnait. C'était la gloire, elle seule. Je vous remercie.
Bien, merci beaucoup pour cette présentation vraiment intéressante de cette œuvre que nous sommes, je pense, beaucoup à découvrir ici. Voilà, on n'avait pas pensé, je pense, que IMAN pourrait servir à la gloire d'une personne passée, en fait. Donc, ça, c'est voilà, un nouvel usage d'IMAN hein, que Marie va noter, en fait. C'est rendre justice à ces personnes oubliées, finalement. Donc, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de voir effectivement la diversité hein, de ce corpus, hein, au-delà de son importance, hein, et donc de la diversité, de l'hétérogénéité des archives que vous souhaitez publier finalement, et où finalement la correspondance apparaît en filigrane. Hein, c'est pas finalement un corpus à part entière, mais plutôt finalement un outil d'indice en fait qui vient finalement éclairer d'autres éléments de votre corpus beaucoup plus large. Donc ce qui est intéressant aussi en fait, hein, c'est de ne pas avoir une édition d'un corpus de correspondance en soi en fait, hein, mais que ce soit une partie simplement d'un projet et qui vient éclairer en fait l'ensemble du projet si c'est possible. Et en plus, en allant finalement compléter ce corpus par des lettres qui se trouvent dans d'autres lieux de conservation. Voilà, je suis aussi sensible hein, finalement à cette collectivité de chercheurs que vous avez pu mettre en place en fonction effectivement des compétences de chacun et donc des aspects différents de ce corpus d'archives, avec toute la difficulté hein, qu'il y a finalement à pouvoir animer, coordonner une équipe afin de travailler sur des principes éditoriaux, j'imagine, communs que vous mettez en place. Voilà, voilà, et puis ce qui m'intéresse aussi dans votre démarche, c'est voilà comment aussi vous, eh bien, vous tordez un peu l'outil Iman, hein, si on en revient à Iman, en fait, comment vous le poussez un peu dans ses retranchements en allant faire de la transcription de ce qui n'est pas de l'ordre du littéraire, hein, de la musique ou bien des langues étrangères. Donc, j'imagine que là, il peut y avoir, je pense, des réflexions à avoir, en fait, hein, sur comment transcrire dans Iman ce type d'écriture. Puisqu'on fait pour les mathématiques avec la tech, j'imagine qu'on peut le faire avec d'autres outils à intégrer dans Iman pour la musique ou pour des alphabets anciens. Et enfin, voilà, cette question hein, qui est sous-jacente dans votre projet, qui est la mise en réseau hein, de ces documents. Hein, comment les mettre en réseau, finalement, aussi dans un aspect génétique, en définitive, hein, pour essayer de reconstituer, finalement, le processus d'écriture de Victorine de Châtenay. Donc, comment mettre en interaction Et peut-être qu'avant de laisser, parce que je vois que dans les personnes présentes aujourd'hui, et Marie va certainement intervenir aussi, puisqu'elle connaît bien le projet, mais je vois qu'il y a des personnes de votre équipe qui sont connectées, qui ont assisté à la séance. Donc, je les encourage aussi peut-être à prendre la parole, en fait, hein, si elles le veulent, pour donner un peu leur sentiment à la fois sur ce projet et sur leur prise en main finalement de Diman. Hein. Ce serait intéressant d'avoir un petit peu votre retour. Moi, j'aurais simplement une question, puisque vous l'avez précisé au début et que vous ne l'avez pas, je pense, développé, c'est que vous aviez dans différentes approches hein, par rapport à cette édition, une approche de matrimonialisation, bien sûr, mais aussi une approche didactique. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet aspect-là ?
Alors, assez peu, parce que comme je l'ai dit, c'est vrai que en fait, nous avons lancé le projet au printemps 2020, et donc au moment du confinement, etc. Donc, en fait, nous devions nous voir au mois de juin, tous ensemble, pour justement être réunis autour des manuscrits et pour que tout le monde découvre ces manuscrits, parce qu'il faut aussi se rendre compte que les seules numérisations que nous avons, ce sont les photos que j'ai prises à la volée dans les archives en pensant que j'aurais peut-être une centaine de folios à photographier. En réalité, il y en a des milliers, enfin des dizaines de milliers, et donc j'ai dû faire des choix, donc nous n'avons pas l'ensemble entièrement numérisé. Et donc, il est absolument indispensable que nous arrivions à tous nous réunir autour de ces manuscrits pour finalement décider ensemble des axes à privilégier. Alors, effectivement, par Internet, nous avons déjà échangé, mais ce n'est pas forcément très simple quand on en est à construire le projet, à choisir des lignes directrices. Alors, l'idée de l'approche didactique... elle est présente, mais c'est vrai que, enfin, je pense qu'on pourrait vraiment bénéficier pour ce projet de, enfin, ça pourrait être une co-construction avec, par exemple, je pense à des étudiants de master de l'école des chartes qui auraient une approche professionnelle justement du traitement des archives, ce qui nous manque un petit peu quand même en partie. Et puis au niveau des étudiants de master en histoire, alors ça pourrait être histoire des sciences, mais histoire plus large, c'est une des choses dont on doit discuter dans la prochaine réunion en physique qui devrait se tenir à la fin du mois de mai, si on y arrive. Donc là, on est vraiment dans les chantiers complètement nouveaux. Et donc voilà. Mais c'est vrai que on a des pistes, mais à creuser.
Merci beaucoup. Mais voilà, ça montre effectivement que pour une même édition, finalement, il y a des usages en fait qui sont variés en définitive. Hein, c'est ça finalement qui nous intéresse également ici. Marie peut-être veut réagir.
Moi, je réagirais sur un point que j'ai trouvé très intéressant en termes sur cette correspondance finalement qui est un type de document en tout cas pour mettre en réseau, puisque finalement dans cette édition d'archives, donc il n'y a pas seulement de la matrimonialisation et de la valorisation d'archives, mais il y a vraiment cette problématique finalement scientifique que tu as posée tout de suite, Isabelle, c'est-à-dire l'intérêt de ce corpus, c'est de pouvoir faire une étude des différentes pratiques d'écriture Et j'ai beaucoup aimé, puisque c'est une idée aussi que j'ai un peu de mal à, enfin, en tout cas, une intuition que j'ai un peu de mal à démêler, c'est de dire que justement dans la correspondance, c'est la possibilité de s'exprimer finalement et d'avoir un jeu et de se confronter et d'être du coup de l'intégration d'une communauté scientifique finalement par la pratique de la correspondance dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que je crois que c'est un thème vraiment intéressant pour réfléchir sur la correspondance comme espace, finalement, d'affirmation d'un jeu, et d'un jeu critique, scientifique, éclairé. Et je crois que c'est quelque chose qui serait fouiller dans ce style un peu, puisque tu as parlé aussi d'un style philosophique et épistémologique aussi, du coup, et quelle place a ce discours épistolaire finalement dans cette dynamique de la mise en place d'un réseau scientifique. Il y a Irène qui aurait aussi une question pour Isabelle. En tout cas, merci beaucoup, Isabelle. Irène ? Merci à vous.
Oui, je ne sais pas, Isabelle voulait peut-être réagir à ce que tu venais de dire.
Non, c'est une très bonne piste. Alors, pour le moment, je ne peux pas répondre parce qu'effectivement, on n'a que 6 correspondances. Bon, vous avez vu que sur une des diapos, j'en mets plus 10, plus 15 parce que on en a repéré un petit peu plus. On n'y a pas encore accédé. Dans les 6 qui sont déjà transcrites, une est vraiment un échange scientifique. Donc, effectivement, ça peut alimenter ce que tu proposes. Pour les autres, il faut vraiment qu'on creuse. C'est pour ça que ça nous paraît important d'intégrer les autres correspondances. Je ne l'ai pas dit, il y a aussi une partie de son fonds qui se trouve à la Bibliothèque nationale, mais qui comprend les manuscrits préparatoires de ces mémoires qui ont été publiés à la fin du 19e siècle et qui ont été étudiés à plusieurs reprises, hein, puisque ces mémoires ont été rééditées plusieurs fois au 20e et 21e siècle. Donc, en tout cas, moi, j'ai considéré que ce n'étaient pas des manuscrits à utiliser en priorité, mais voilà, dans l'idéal, ce serait bien d'adjoindre aussi cet ensemble qui finalement a été séparé en 2 morceaux de la volonté de la comtesse. Mais je retiens ton idée pour une avancée ultérieure sur les correspondances.
Exactement, les correspondances.
Oui, ben justement, c'était dans ce sens-là ma question, mais je pense que tu y as en partie répondu. En fait, c'était extrêmement étonnant qu'il y ait aussi peu de correspondances en tout cas, même si tu n'as pas encore tout dépouillé, aussi peu de correspondances visibles. Et donc, la première hypothèse qui vient à l'esprit, c'est qu'elle est ailleurs. Parce que voilà, en fait, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que quelqu'un de tellement les autres qu'elle en a pas ou très peu, mais alors, et on a, ben voilà, ou est-ce que c'est parce qu'elle est ailleurs quand même?
Alors, je pense que comme beaucoup de femmes, sa correspondance, en fait, elle avait un réseau énorme du point de vue politique, scientifique, etc. Alors, il y a deux parties dans ma réponse. La première, c'est que pour une première partie de sa vie, elle habitait à Paris. Donc, elle avait des échanges directement oraux avec les savants, les hommes politiques, etc. Mais il y a forcément des lettres qui ont circulé à Paris. Mais ensuite, la seconde partie de sa vie, elle s'est retirée dans le Châtillonnais. Et donc, je ne vois pas comment il serait possible qu'elle n'ait pas écrit régulièrement des lettres à tout son réseau. Et je pense que, comme beaucoup de femmes, ces lettres sont conservées dans un fonds d'hommes. Puisque, en tout cas, dans mes recherches sur les femmes, ce que je retrouve souvent, c'est ce problème d'archives manquantes. Et en général, on peut les retrouver classées dans les fonds d'un homme. Donc, il suffit d'identifier tous les hommes importants avec lesquels elle a eu des échanges et d'aller fouiller dans ces fonds, et je suis persuadée qu'on en trouvera.
D'accord, donc voilà, c'était sur l'inventaire de la correspondance. Et j'avais une deuxième question, c'était, au fond, quel type d'édition tu veux faire ? Ouais, c'est peut-être une question à laquelle tu n'es pas capable de répondre tout de suite, mais, parce que c'est une question que je me pose moi aussi. C'est-à-dire, donc là, tu es parti pour en faire une édition avec toutes les questions que tu as posées sur Imane. Ton objectif, c'est que ça soit... quelque chose qui soit public et qui travaille à la gloire de Victorine de Châtenay, comme tu l'as dit, ou que ça soit un outil pour des chercheurs, ce qui peut aller dans le même sens, hein, parce que pour montrer ce que disait Marie, les autres types d'écriture, et justement, ça, c'est très intéressant, mais comment ? Parce que ça change quand même pas mal, justement, l'éditorialisation de ce que tu vas faire.
Ah, en fait, enfin, l'objectif premier, je pense, c'est que ça met à disposition des chercheurs, alors dans un ensemble assez large de disciplines, hein, puisqu'elle touche à beaucoup de types d'écriture dans des domaines variés, un corpus qui jusqu'à présent était resté invisible et qui peut permettre de nourrir leurs recherches. Et je pense qu'on peut également... le voir comme un outil de visibilisation des travaux de femmes à une époque où on considère qu'en fait, ben non, elles ne font pas de science, elles font pas, enfin, c'est quand même un siècle où les femmes sont plus enfermées à la maison. Et donc, je pense que ça participe des deux. Mais c'est vrai qu'a priori, moi, ce que j'aimerais, c'est que ben, des chercheurs s'en saisissent pour nourrir leur recherche.
Et du coup, tu disais qu'il y avait un volume important de traduction, c'est ça ? Alors, et tu sais si ces traductions ont circulé ou si c'était pour elle
Alors, la traduction dont j'ai parlé, c'est alors pour le moment la seule qu'on ait trouvée, parce qu'il faut bien dire qu'on a mis juste le petit doigt dans l'engrenage. Donc, c'est le manuscrit de botanique sur lequel ont travaillé Marc et Gilles qui sont présents, donc ils peuvent peut-être prendre la parole s'ils le souhaitent. Donc, c'est un manuscrit de 74 pages. Marc, Gilles, je ne sais pas si...
Je peux essayer d'en dire deux mots, mais c'est vraiment Gilles qui a beaucoup travaillé dessus. Ce manuscrit est donc pas identifié comme étant une traduction. Mais par contre, on y a repéré des locutions qui nous semblaient avoir déjà entendues, etc. Et donc, en faisant un travail d'archiviste extrêmement minutieux, Gilles a réussi à repérer qu'il s'agissait d'une thèse en fait, qui avait été écrite par Linné. On était à une drôle d'époque où c'était les patrons de thèse qui écrivaient les thèses, hein, et qui les faisaient signer par leurs étudiants. Et donc, Gilles a réussi à repérer... De quelle thèse il s'agissait, mais il a repéré aussi qu'a priori cette thèse-là n'avait jamais été traduite en français. Il a repéré également qu'il y avait deux écritures, c'est ça Isabelle ?
Oui, deux écritures.
Hein,
oui.
Deux écritures identifiables mais non identifiées. Ça va rester encore un challenge. Est-ce que quelqu'un a réécrit à partir de notes de Victorine de Châtenay qui aurait fait elle-même la traduction, c'est un grand mystère. Est-ce qu'elle a eu communication d'une traduction qui aurait été faite par un botaniste plus établi de l'époque ? C'est tout des hypothèses, simplement.
Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres traductions dans son ensemble, dans le corpus ? Peut-être, on doit explorer. Maintenant, il nous faut du temps. Je ne sais pas si on a répondu à la question.
Oui, oui, tout à fait. Non, mais je dis ça parce que je trouvais ça passionnant à cause de ce que Patrice avait déjà travaillé sur le rôle de diffusion des femmes traductrices totalement méconnues, mais que là, ça rentre dans ce type de travail.
Oui. Alors, est-ce que c'est elle la traductrice ou pas ? Ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est un manuscrit qu'elle a récupéré ? Parce qu'en fait, son père était aussi passionné de botanique, était ami de nombreux botanistes. Alors, est-ce que la traduction a été faite par lui ou pour lui et qu'elle en a hérité ? C'est aussi une des questions. Sachant qu'elle, elle-même, a publié des traductions de l'anglais, qu'elle maîtrisait le latin, puisque là, le texte original était en latin, mais elle maîtrise le latin. Donc, toutes ces questions sont ouvertes et voilà, nous avons encore beaucoup de travail. Ah ben, Gilles est là, peut-être qu'il peut vous dire quelques mots sur la traduction. Non, ça passe mal.
Oui, a priori, ça marche pas.
Peut-être un petit élément pendant que Gilles essaye de parler pour remettre dans les choses en contexte. L'inné n'a pas été très bien reçu au début en France, hein, je veux dire son œuvre, sa pensée, il y a eu une forte opposition de Buffon, et ce qui fait que, bon, sans dire que ça se vendait sous le manteau, mais il y avait quand même un petit peu de réticence, au moins dans les cercles parisiens, à faire parler des travaux de l'inné. Alors peut-être que voilà, c'était quelque chose qui avait été fait à la marge et qui était resté non publié parce que ben, ce n'était pas trop politiquement correct à l'époque. Ça concerne la sexualité des plantes, notamment, si ça peut aussi donner un indice.
Mais du coup, pourquoi Victorine, elle aurait été sur ce circulaire par son père, c'est ça que tu dis, Isabelle ?
Bah, peut-être, en fait, c'est une des pistes, puisque en fait, son père était un grand ami de Desfontaines, et lorsque Victorine avait 4-5 ans, en fait, elle faisait des promenades dans le jardin familial avec Desfontaines, et qui l'aidait à faire son herbier, et qui lui donnait les noms savants des plantes.
Excuse mon ignorance, quelle Desfontaines ?
Alors, c'est René Desfontaines. C'est un botaniste qui travaillait au Jardin du Roi, donc maintenant muséum d'histoire naturelle. Et donc, il y avait en fait pignon sur rue au Jardin du Roi, et il donnait des cours particuliers au père de Victorine quand elle était petite. Et par la suite, il lui a donné à elle des cours particuliers. Enfin, il la faisait venir au laboratoire de botanique du muséum, et il lui donnait des cours avec d'autres botanistes très connus de l'époque. Donc, c'est sûr qu'elle avait un intérêt sur le sujet, et que son père aussi. Donc, voilà, pour le moment, tous les éléments qu'on peut avoir. Et c'est vrai que Gilles et Marc avaient souligné que ce texte qui porte sur la génération et la reproduction des plantes, pour une femme à l'époque, c'était quand même un sujet un peu particulier. Donc on travaille sur tout ça.
Bien, merci beaucoup pour cet échange. On a dépassé un peu l'horaire, mais on avait pris un peu de retard. Donc on s'excuse encore pour ces aléas techniques. Mais si j'ai bien compris, Thomas a quand même pu capter notre séminaire. Donc il sera disponible après un peu de montage quand même, on va faire un peu de toilettage sur ce canal U en fait pour diffusion. Voilà Marie, je ne sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter.
Bien, non, seulement de dire qu'on a un autre rendez-vous le mois prochain, autour la question de l'édition de corpus de correspondance croisée.
Voilà. Voilà, je crois que c'est le 19 mars, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on vous attend à ce moment-là, mais on vous enverra une invitation quelques jours avant. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Et puis, écoutez, bon après-midi à toutes et tous, et à très bientôt.
Et merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés.